She's just going to change it. Because so she's just going to get very low level, but yeah. B, she's like, I've seen her really limited in fact. And then they approached her, she got really well with the woman who's based in Spain just now, who's doing all of this stuff. And she's got coming on. So we're trying out for 2 months as well. So I'm
more excited.
And is she political? She has a.
She doesn't look at it.
That's good.
We came in great. Thanks for all your help.
So you obviously know your way around. You can hear me
surprised. Yeah. Well, I've been working in the Parliament before. But it was surprising to see. He just walked in with his business
cards.
With a face like this, how
personal.
Oh, wow.
He sneaked in.
That's nice, yeah.
Big thing. Anyway, so brought up in Texas and then it's
a Texas Irish Catholic Jew in Ireland.
That's a
good day out, you know.
It's fab. I mean,
it's a fight.
She's an amazing woman. And
I think you have a, you're in a
and that's what she wants to do. She just wants to do, because she ran for president, but she's so special. She ran against her best friend, Charlotte.
But they hold it together.
Oh, yeah, and they're really good friends. And Charlotte is amazing as well. So I would have been just to her. But she's pulled herself up and she's just, she had offers to go to Democrats. I had to do a phone interview with Josh in Ohio. And then do another thing for her. I was standing in the supermarket and this email came in and she's giving a reference to her name. She's just an amazing person and I would get actually get her to answer. She had said an email to me saying she would like to do it. And I said, right, good, she's people out and they had their website, they had the strategy, they had the local brand, everything, and I'm like, these people can be, and they are only in their 20s, but she's just turned 21 and I'm like, it's such a brilliant future. Our best friend is going to change the Navy SEALs. He's applying for that in January. So he's an amazing guy as well. And they're not working together, they're just friends. And so I had him for lunch and some bits.
I think that one of the other things that's really interesting about all of these discussions is the digital side. For Brussels, for the EU, ye have been the kind of progressive voices. And
I mean, basically, she at the moment, she understands advertising as well. So the thing about it is that, okay, in a month long contract, you're not a full time contract, but after a few months, if they don't like her, they'll keep her. If they don't, but with other things, once they find out what they've got to do, the fact she's been educated in the UK understands you as well.
Yeah.
Hello? Yeah. The machine is from the 50s, hein?
C'est la technologie des années 50.
Okay, so I think we can start.
Nous pouvons commencer. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Je sais que c'est une journée très chargée aujourd'hui pour tout le monde. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom du groupe SED. En tant que président du groupe de travail l'Europe numérique, nous avons souhaité avoir cette réunion avant la pause de l'été parce que nous souhaitions démarrer nos activités dans le contexte des start-up. Nous avons déjà eu une réunion à Strasbourg, ici. Et Shadok, il y a quelques semaines, était là. Nous avons décidé de les inviter au Parlement. Martina Werner est ici, j'en suis très heureux. Édouard Martin également, qui viennent de la commission ITRE et qui sont avec moi ici ensemble. Nous allons donc vous accompagner dans le décours de ce programme de la matinée. L'aspect économique est l'une de nos priorités au sein de notre groupe. On a été très actifs sur ces questions l'année dernière. On travaille de plus en plus dans le contexte du marché, de la numérisation. Et nous avons des projets européens positifs, intéressants actuellement, et nous avançons très bien en ce qui concerne le projet du marché unique numérique. Il faut que ça avance, et en tant que socialiste, c'est l'une des priorités que nous avons. À cet égard, bien entendu, les jeunes sociétés, les start-up jouent un rôle extrêmement important, et pour nous, en tant que groupe politique, nous travaillons avec les syndicats, les mouvements syndicaux. C'est une démarche un peu nouvelle pour nous, que nous adoptons actuellement. Et nous souhaitons renforcer les entreprises, les possibilités données aux jeunes entrepreneurs. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas habituel pour les socialistes, mais nous souhaitons faire avancer cette question parce que nous savons que ce sont les jeunes qui assureront l'avenir de notre société. Ce sont les jeunes entrepreneurs avec leur esprit d'entreprise et leurs idées qui nous feront avancer à l'avenir. Donc, bienvenue. Je voudrais demander maintenant à Martina Werner de nous dire quelques mots d'ouverture. Après, je passerai la parole à Édouard Martin qui va présider la réunion. Tina, vous avez la parole.
Ja, schönen guten Morgen.
Bonjour. Bonjour de ma part également. Tout d'abord, merci beaucoup à nos expertes et nos experts qui sont venus ce matin. Je voudrais remercier également Joseph, parce que c'est lui qui a eu l'initiative de ce workshop, de cet atelier. Donc, merci. Alors, la question de l'appui apporté aux start-up a toujours été une des questions importantes pour la commission, pour notre commission. Mais nous n'avions pas encore vu les activités que vous développez. Alors, la commission doit être invitée à renforcer son travail auprès des start-up et à formuler des politiques allant dans ce sens. Il est donc extrêmement important d'organiser ce type d'atelier parce que nous souhaitons comprendre directement la façon dont les start-up travaillent, dont elles sont créées. Nous souhaitons comprendre de quel appui elles ont besoin. C'est cela que nous souhaitons faire ici. Je pense que les start-up, c'est une question extrêmement intéressante. Récemment, j'ai appris à connaître une jeune entreprise, Hectoring, qui réunit des jeunes informaticiens et qui les confronte aux défis à relever dans le trafic ferroviaire, dans le transport de passagers également ferroviaire. Donc ce sont des informaticiens jeunes qui ont beaucoup d'idées, qui ont beaucoup d'expérience déjà et qui travaillent sur les billets électroniques, les transports modaux, etc. et qui produisent des idées tout à fait intéressantes, des solutions dans un temps très court parfois et qui véritablement sont impossibles auprès d'énormes entreprises qui ont une organisation beaucoup trop lourde pour produire des idées. Donc la coopération entre les petites entreprises novatrices et les grandes entreprises doit pouvoir se faire. Moi, ça m'intéresserait de voir comment ça fonctionne, parce que ça se fait parfois. Au début de l'année, je suis allé aux États-Unis et j'avais remarqué également que de grandes entreprises GE, etc., travaillent avec parfois ces petites entreprises et leur confient la recherche de solutions pour eux, parce que justement au sein des grandes entreprises c'est impossible parce que les mécanismes sont trop lourds. Je connais le docteur Kreuter qui vient de ma circonscription. Il est à la tête de Science Park et nous avons d'ailleurs des grandes entreprises dans notre région également, par exemple Volkswagen, avec beaucoup de travailleurs, et vous coopérez avec eux. Moi, ça m'intéressera de vous entendre, justement, quant aux relations entre les petites entreprises, les start-up, et de grandes entreprises comme Volkswagen, mais également avec d'autres grandes entreprises. Alors, je serais tout à fait intéressant de voir quel est le potentiel qu'on peut exploiter à ce niveau. Une autre question, et je crois que c'est important pour les start-up, c'est la question du financement. Là, par exemple, vous avez l'exemple de la politique des transports dans le cadre des journées TNT en juin 2016. La commission a organisé un speed dating pour essayer de se faire rencontrer, de faire se rencontrer des investisseurs, des institutions financières, des petites entreprises qui peuvent proposer leurs projets sur la base de discussions en table ronde, etc., pour déboucher sur des modèles intéressants de financement. Ça, c'est une initiative qui serait peut-être bonne pour vous, qui pourrait apporter un appui concret utile aux petites entreprises. J'aimerais entendre ce que vous pensez de cela, quelles sont vos idées, quels sont les financements, les formes de financement novateurs qui pourraient apporter quelque chose et qui pourraient être prometteurs. Voilà donc quelques mots d'introduction de mon côté, de notre côté, et je suis très heureuse d'être ici pour mener un débat qui, je crois, sera un échange d'informations tout à fait rafraîchissant. Merci. Je vais inviter le docteur Kreuter peut-être à prendre la parole. Enfin, je donne la parole tout d'abord à Édouard avant de prendre ma place.
Merci Martina, merci Joseph pour avoir initié effectivement cette journée de réflexion et de présentation de start-up innovantes. Ça a été dit, tout le monde connaît l'importance du numérique. Nous serons 7,5 milliards d'habitants d'ici 2050. Donc la connectivité, les connexions entre les peuples, etc. va être de plus en plus importante. Et effectivement, nous devons prendre une place importante dans le développement pour aider ces start-up, pour aider ces incubateurs de nouvelles idées, aider à libérer les énergies, à multiplier les idées, y compris les idées les plus folles. C'est comme ça qu'on réussira effectivement à être en avance par rapport à d'autres, parce que nous n'avons pas le droit de rater ce train du numérique. Et j'ai envie de dire, pour une image, c'est les start-up, ça a été dit par Martina. Ça me fait penser un peu, le fonctionnement global, c'est une horlogerie suisse. Les start-up, c'est la précision. C'est quelque chose qui est précieux pour faire et indispensable pour faire marcher et fonctionner ce mécanisme complexe qu'est le numérique, les interconnexions, comment aider effectivement à trouver des financements, mais aussi comment surpasser les frontières. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc là, moi, je vais être un peu aujourd'hui le maître du temps. Et donc, je suis dans le mauvais rôle, mais néanmoins, j'imagine qu'en 7 minutes, vous, les uns les autres, vous serez en capacité, maximum 7 minutes, de nous expliquer un peu quels sont vos domaines de compétences, sur quoi vous avez travaillé. Et pour ne pas perdre plus de temps, je donne la parole à Monsieur Yaron Schwartz. Non, c'est Monsieur Yaron Schwartz qui démarre, c'est ça? L'ordre du jour est bon. Donc, c'est à vous, s'il vous plaît. Pour 7 minutes maximum.
All right. Good morning. Thank you very much for.
Bonjour. Merci de m'avoir invité au Parlement européen. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Yaron Schwartz. Je viens de Tel Aviv, en Israël. Je suis à l'heure actuelle à Paris, en France. Ma start-up s'appelle Tridom. Nous nous concentrons sur la construction numérique. Nous automatisons le cycle de construction pour des bâtiments grâce aux imprimantes en 3D. Et il y a 6 mois, nous avons remporté le visa français des start-up. Et il y a 2 grandes raisons pour lesquelles nous avons accepté cela. Si on regarde l'industrie de la construction, c'est sans doute une des plus conservatrices qui existe. Et il y a très peu d'écosystèmes qui les appuient, à part l'Allemagne et la France. Et voilà la raison pour laquelle nous avons choisi de venir en France, en Europe. Mais nous nous sommes heurtés à un obstacle. Le visa start-up que nous avons reçu en France n'est pas européen, il ne sert qu'à la France. Et puisque nous sommes une start-up internationale, nous voulons pouvoir travailler partout. C'est un peu quelque chose qui nous a retenus. Maintenant, que faisons-nous? Eh bien, avant de vous rendre la parole, je voudrais vous livrer une réflexion. Ma start-up se concentre sur la robotique destinée à la construction. Et nous voulons nous positionner au niveau mondial, devenir un acteur majeur. Et on m'a demandé de créer un défi mondial, d'ouvrir le secteur à toute personne, toute entreprise, toute université, tout groupe, toute personne qui souhaite développer une technologie et résoudre ce problème pour créer des logements abordables. Nous attendons l'aide de gens sur le terrain, à la base, qui veulent innover, mais il faut aussi activer les canaux du haut vers le bas. Il faut une aide publique pour qu'il puisse y avoir des bâtiments, des règlements pour les bâtiments et pour diffuser l'information auprès du public. C'est-à-dire que chacun puisse disposer de ces informations. Donc c'est un appel lancé à tous ceux qui souhaitent participer à ces logements abordables, d'où qu'ils viennent. J'invite tout le monde à venir parler ici avec moi.
Écoutez, merci beaucoup. Vous avez été concis, mais très précis. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Naomi Rivo, qui a, je crois, une projection, c'est ça?
Du tout.
Ah, bon.
La projection n'était pas pour moi.
Ah bon. Alors, désolé. Donc, écoutez. La parole est à vous.
Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci d'avoir invité le Shadok aujourd'hui pour ce court séminaire. Je vais essayer d'être aussi concise que mon prédécesseur. Le Shadok, c'est un lieu qui est né à l'issue d'un projet qui a démarré en 2012, un projet qui a été impulsé par la ville et l'Eurométropole de Strasbourg qui souhaitait effectivement un lieu qui soit dédié aux usages du numérique et des nouvelles technologie. Donc l'objectif du Shadok et son ambition est d'être effectivement un lieu outil qui favorise la rencontre, l'émergence et le partage aussi lié à ces usages du numérique, donc à travers deux axes. L'axe culturel, puisque nous accueillons effectivement un important volet artistique et culturel autour de ces usages du numérique et des nouvelles technologies, et un volet économique pour lequel nous avons été invités aujourd'hui. Je précise également que deux de mes collègues qui sont liés justement à ce volet économique sont présents aujourd'hui dans la salle, donc l'association Alsace Digital qui gère notre espace de coworking qui se trouve au deuxième étage du Shadok. Donc l'association Alsace Digital qui a effectivement pour mission de développer l'écosystème du numérique en Alsace. Bien sûr. Donc l'écosystème du numérique en Alsace, développer le tissu économique et effectivement de développer un environnement propice pour les start-up justement et les entreprises sur le territoire, ainsi que ma collègue de la direction du développement économique qui nous accompagne également dans la mise en place d'un kit émergence qui vise à accompagner les entreprises qui viennent effectivement, qui sont hébergées au cœur de l'espace de coworking du Shadok du deuxième étage, donc par Alsace Digital. Alsace Digital dont l'aventure a démarré en 2012 avec l'ouverture de la plage digitale dans un bâtiment juste en face d'une autre qui s'appelle Rive Étoile. Donc c'est vraiment concernant l'aspect économique du Shadok et dans ce souhait d'accompagner les acteurs du territoire, notamment dans l'émergence de nouvelles entreprises, dans l'accompagnement aussi des pratiques économiques sur le volet économique. C'est vraiment les deux acteurs phares qui travaillent avec nous, donc à savoir Alsace Digital, mais également la French Tech, donc pour lequel mon prédécesseur a été labellisé, puisqu'effectivement le Shadok s'avère être aussi un bâtiment totem de la French Tech concernant effectivement l'accompagnement et l'hébergement d'entreprises. Voilà, je crois que j'ai été très rapide. Je m'excuse auprès des interprètes et je cède la parole à mon collègue.
Un exemple d'une start-up qui a émergé
Alors pour ça, je laisserai ma collègue d'Alsace Digital répondre, puisque en fait, je suis beaucoup plus axée sur le volet culturel du Shadok dans tout ce qui est art numérique. Donc pour les exemples de start-up, je ne voudrais pas trahir mes collègues d'Alsace Digital, donc je laisserai plutôt ma collègue répondre à cette question.
Alors, je peux en citer plusieurs, mais c'est lié à des actions qu'on fait au niveau d'Alsace Digital. On met en place des start-up week-ends, des hackathons, etc., qui amènent en fait l'ensemble des porteurs de projets potentiels et des gens qui ne savent pas encore qu'ils sont des porteurs de projets potentiels à se rassembler pour pouvoir travailler sur la création de projets. Dans ce cadre-là, il y a eu plusieurs start-up qui se sont créées depuis quelques années, notamment il y a Rêve aux Lettres qui est représenté ici par Rémi Perla, qui a émergé depuis, qui a été créé en 2014 suite à un projet d'un start-up week-end de 2012. Dans le cadre du kit émergence qui est mis en place au niveau du Shadok et de l'espace de coworking, il y a plusieurs startups qui ont été mises dans la dynamique depuis l'année dernière, puisque c'est un projet qui a été mis en place l'année dernière, notamment une entreprise qui s'appelle Stratagem, qui est une start-up qui travaille sur le tracking avec une technologie qui s'appelle le LoRa. Le tracking, notamment pour les vélos volés, initialement, c'était le point de départ du projet, ce qui est une problématique très strasbourgeoise en particulier.
C'est très bien, effectivement, Strasbourg est aussi une autre ville du vélo. Donc,
absolument.
Il faut aussi protéger...
Une autre ville, il y en a d'autres dans les
propre,
capitales européennes.
Transport propre, donc il faut effectivement préserver l'intérêt du vélo. Merci pour ces exemples. Je passe la parole maintenant au docteur Gérald Kreuter, qui plutôt, lui, travaille dans le domaine de la science. Si vous voulez bien nous présenter vos travaux en 7 minutes maximum. Je suis désolé, mais pour l'instant, vous êtes tous très bien, vous respectez largement votre temps de parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais raccourcir un peu ma présentation parce que sans ça, j'aurais besoin de 2 heures pour vous présenter tout. Mais dans notre intérêt à tous, je fais des coupes. Alors, je commence par Kassel. Park Kassel, quelle était l'idée? C'est un peu la même idée que le Shadok, c'est un peu le même point de départ, mais on fait ça de façon différente. On a un lieu qu'on a créé sur le terrain de l'université, sur le campus universitaire, c'est tout à fait unique en Allemagne, avec l'université et la ville de Kassel, on a voulu créer une plateforme de rencontre dans la S du Nord, et l'université a un campus qui est très grand, on a donc obtenu une partie de cette superficie, 6000 mètres carrés de bureaux, donc c'est un centre de technologie et d'innovation de taille moyenne, il y a des ateliers, etc. Ce qui est important dans le domaine de l'informatique, c'est justement qu'on a toute une série de liaisons Internet. Si on ne les avait pas, évidemment, il n'y aurait pas le lien avec les startups. On a un grand salon avec le meilleur café sur le campus universitaire pour que les startups viennent chez nous, se rencontrer les étudiants, échanger des idées. Donc cette lounge et ce café qui offre pas mal de choses est un point d'attrait et tout le monde s'y rencontre. Et puis on a un laboratoire d'idées et on l'a appelé Unicat Lab. C'est un laboratoire unique de transfert, d'échange d'activités, d'échange d'idées qui a été créé par l'université et la ville de Kassel. On a créé un outil là avec lequel les entreprises peuvent faire avancer leurs plans, leurs innovations, les concrétiser. Et cela, on le fait avec ce laboratoire d'idées d'Unicat Et ce IDL Lab, on l'a créé avec la participation de grandes entreprises de la région, Volkswagen, Werner en a parlé. On a des contacts tout à fait étroits avec Volkswagen, mais avec d'autres grandes entreprises, même des multinationales qui sont dans la région. On a des contacts étroits et on établit là encore les liens entre les startups et ces entreprises. On est un moyeu de rencontre qui rayonne autour. Et on a par exemple reçu une délégation de Mercedes-Benz qui est venue nous voir. Et effectivement, cette délégation, la direction de Mercedes, est venue voir comment on fonctionne, comment on organise cette coopération, etc. Le coworking, ça se fait dans les centres de technologie. On n'est pas les premiers d'ailleurs à faire cela. En mars 2015, on a commencé nos activités, on a commencé à construire ce bâtiment entièrement nouveau avec 7,5 millions d'euros de subventions européennes sur la base des fonds régionaux. Le reste a été payé par l'université et la ville de Kassel. Voilà donc le financement qu'on a utilisé. Actuellement, on n'a pas 20, mais 30, 35 startups qui sont accueillies chez nous et qui véritablement procèdent à leur travail. On travaille notamment sur l'énergie, l'efficacité de l'utilisation de l'énergie, les sources d'énergie, etc., avec toutes les idées qui peuvent surgir de ces rencontres. Et depuis 1997, on travaille à la ville de Kassel avec un centre d'innovation au sein duquel 90 entreprises travaillent. Et moi, je suis l'une de ces petites start-up. Nous avons donc commencé avec ce bâtiment. Ce bâtiment existe encore. Il va être modernisé. Ça, c'est point central où les universitaires se rencontrent. Il y a plus de 4000 universitaires, enfin étudiants, à Kassel à l'heure actuelle. Ici, vous voyez donc ce parc, la façon dont ça se présente. Vous avez les bâtiments, le terrain, et sur ce nouveau campus, dans une dizaine d'années, ce sera le plus grand campus universitaire avec, on prévoit, 6000 étudiants. Vous voyez ici l'université en haut et le reste. Nous sommes défenseurs du changement, on accompagne le changement. Ici, tout simplement, pour vous montrer, on a des événements qu'on organise. Ça, c'est notre laboratoire d'idées dont je vous ai parlé, où on rencontre, on a les rencontres avec les grandes entreprises et les start-up qui viennent nous voir. Ça, c'est important pour une start-up. Sans un baby-foot, rien ne marche en Allemagne, sur la scène des start-up. On en a besoin, ça réunit les gens aussi. Et c'est un potentiel de conflit, parce que ça fait du bruit, on lutte, on hurle, on crie, et c'est comme ça que les idées passent le mieux. Donc le baby-foot, c'est un élément essentiel, quelques idées du bâtiment, laboratoire. Ici, c'est surtout pour les entreprises créatrices. C'est vide, il y a une seule personne qui apparaît. Mais ce qui est important, c'est cela. En conclusion, je vous montre cela. Vous voyez, on est ce Science Park Kassel qui est le véritable point central de la dynamisation des start-up. Vous voyez l'université de Kassel, vous voyez ces petites colonnes. Alors le premier pilier, c'est recherche et éducation et formation. Et là, on parle de la création des start-up. Il y a un centre de recherche et de formation où les étudiants vont recevoir les idées nécessaires pour créer des entreprises. Et le pilier du milieu, c'est le développement des produits avec les financements, notamment le financement participatif, le crowdfunding qu'on utilise pour les financements. Ceci s'appelle Unicassel Transfer et ce pilier, il a dans tous les secteurs de l'université des activités. Et pour le troisième pilier, c'est la création des entreprises. On a évidemment les conseils au niveau des financements. On a un directeur du financement qui vient du monde des entreprises et qui prépare les concepts de financement et qui cherche les possibilités de financement pour les start-up. Et avec Unicat Finance, qui est ce pilier, on recherche les formats les meilleurs pour les startups. C'est un problème de financement d'assiège, par exemple, pour une startup. On est en train de mettre au point divers modèles qui soient des modèles adaptés aux régions, aux sièges de ces entreprises pour que les startups puissent évidemment se créer de façon concrète également. Donc voilà notre contribution, voilà la façon dont nous tentons d'agir à l'interface des idées des jeunes, de l'entreprise, du monde des entreprises, du monde des universités. Voilà ce qu'a fait la ville de Kassel. Et je crois que ça fonctionne déjà très bien. Merci.
Merci beaucoup, docteur. Et vous avez souligné l'importance de la qualité du café pour aussi souligner la réussite. Donc, ce serait bien qu'on puisse aussi inventer une application de manière à ce qu'on boive du bon café un peu partout, parce que ça devient de plus en plus rare. Et le baby-foot, je comprends un peu mieux pourquoi les Allemands, vous êtes aussi forts au football. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que ce soir, on va vous contredire, en toute amitié. Je passe la parole maintenant à M. Sean Murphy, qui a... Vous avez prévu, je crois, une vidéo.
I do, yes. I'm not sure how to play it, but I do have a video if possible.
Oui, j'ai une vidéo si possible.
La technique, qui s'occupe de la technique?
Yeah, it's filming.
Ah.
Ah, ok.
Ah, thank you.
Thank you.
Okay, maybe I should explain whilst,
Bon, je vais expliquer ce que vous voyez ici. Vous avez le projet SHARP, interprété par l'un des membres du projet SHARP. Et le projet SHARP, il est représenté de façon assez symbolique ici. Donc, ce projet est un peu différent, en fait. C'est à 2 miles du centre de Manchester.
C'est quelque chose qui reçoit des financements fédéraux. C'est assez simple. Et on a créé 480 emplois depuis le début. Et ça insuffle des sommes considérables dans l'économie britannique. On a du tennis de table, on a du baby-foot. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur, mais bon, c'est là. Moi, ben, je n'ai pas le temps de jouer à tout cela. Enfin, voilà le campus. Voilà une animation très rapidement. Et être sur le, pour être sur le campus, comme je l'ai dit, il faut être un fournisseur de contenu numérique. L'espace, la connectivité, les gens... L'énergie, c'est tout cela qui crée le projet SHARP. Il y a, ça, c'est un bureau un peu plus traditionnel. On a des plateaux de télé, des studios pour le son, on a des personnes qui travaillent seules, des PME de 80 personnes. Il y a des gens qui développent pour la PlayStation. On a aussi quelque chose qui s'appelle Sharp Futures, qui donne aux apprentis aussi leur chance. Voilà un peu le projet Sharp. Mais là, j'ai une double casquette aujourd'hui, si vous voulez, aujourd'hui, juste pour vous expliquer. Bon, j'espère que ça va avancer aussi, notre animation. Voilà, on va faire une pause. Ça, c'est mon bureau. Et, là, dans le coin, juste pour vous expliquer. Nous sommes une société d'experts, nous intervenons dans plusieurs disciplines. Moi, ma discipline, c'est les circuits fermés de télévision. Mais bon, hier, par exemple, j'ai travaillé sur une affaire de meurtre dans le nord de l'Angleterre. Aujourd'hui, je suis ici, donc c'est très varié. Par exemple, il y a eu le procès Oscar Pistorius. Bon, on n'y était pas, mais enfin, c'est le genre de choses que nous faisons. Lorsque nous essayons d'expliquer les scènes de crime en utilisant des graphiques, alors on peut faire des animations... Il peut y avoir visualisation d'un voyage de quelqu'un en utilisant leurs données de téléphone mobile, comme ce qu'il y a sur l'écran maintenant. En utilisant des données, on essaye d'expliquer des informations complexes dans un graphique. Voilà, que tout le monde peut comprendre. Nous sommes une des rares entreprises du projet Sharp qui exporte en dehors de l'Europe, en dehors du Royaume-Uni. Moi, je dis qu'on devrait encore faire plus de projets Sharp. C'est pourquoi je suis intéressé par ce qui se passe ici aujourd'hui. Voilà, vous venez de voir l'image ici. Ça, c'est une des choses qu'on fait à l'extérieur. Ça, c'était à La Haye. Il y a le tribunal spécial pour le Liban. Il y a d'autres tribunaux du même genre. Et il y a la Cour pénale internationale. Voilà. Merci de m'avoir invité, surtout après ce qui s'est passé la semaine dernière au Royaume-Uni. Moi, je suis candidat pour un passeport irlandais. Alors, voilà, c'est le projet Sharp et son potentiel.
Merci beaucoup. Et puis, on ne vous en veut pas pour ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que vous restez quand même des partenaires importants. Et comme je le dis souvent, parce que j'aime beaucoup le football, je suis désolé, et un club qui s'appelle le FC Liverpool, et donc je vous dis en anglais, « You'll never walk alone ». Voilà, donc, et puis j'ai simplement...
I'm a Manchester lad. Liverpool is not my thing, sorry.
Non, moi je suis Manchester, je suis pas Liverpool. Désolé.
Interpreters are laughing at that.
Très bien, thank you very much. Et donc je passe la parole...
Can I swear?
Patrick Flynn.
Please. So, just to say, with a name like Sean Murphy, I don't think there'll be any issue.
Bon, moi je m'appelle Sean Murphy. Bon, je peux vous dire que vous n'aurez pas de problème à avoir un passeport irlandais. Bon, merci de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Je me suis pas dit Flynn. Ça peut pas être plus irlandais que ça. Donc, je travaille à Dublin pour Google. Je vais vous expliquer ce que nous faisons. Je ne travaille pas toujours avec des entrepreneurs. J'ai plusieurs emplois, comme c'est le cas de beaucoup de personnes à Google, et je m'occupe aussi des start-up, ce que je fais depuis un certain temps. Nous sommes très présents à Dublin, et nous avons comme tâche de faire croître un peu nos entreprises un peu partout en Europe. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler des hubs numériques, des start-up, et de tout ce qui est frontalier, ça c'est les mots que j'ai retenus. Et je vais vous expliquer comment nous essayons de faire cela au plan local, un peu partout en Europe, et je vais essayer de vous expliquer un peu comment on peut établir ces connexions. Je vais peut-être aussi poser des questions sur ce que l'on peut faire pour faire évoluer la situation. Moi, ce que je constate depuis plusieurs années, c'est que ces hubs numériques, ça reflète un écosystème. Et dans cet écosystème, il y a les start-up, les multinationales, les sociétés traditionnelles comme nous, les espaces d'innovation, des accélérateurs, des incubateurs, des universités, les gouvernements locaux, les gouvernements centraux. Nous voyons tout cela comme étant des composants critiques à un bon écosystème. À Google, il y a un programme qui s'appelle Google pour les entrepreneurs, qui a commencé il y a quelques années, qui a essaimé partout dans le monde. Moi, j'en suis responsable pour Dublin. Ça aide en fait les communautés, c'est centré sur les communautés, c'est pas commercial. Il s'agit de voir où on est présent, comment on peut aider à faire croître les communautés de start-up. Il y a par exemple les Hatch Labs, les modèles campus. On se concentre sur des espaces physiques dans les communautés de l'innovation. Par exemple, il y a un campus à Londres. Il y a des espaces de co-travail. On a des relations avec d'autres entreprises comme Dogpatch Lab, Factory à Berlin. Nous pensons qu'avoir ces entités centrales, ça permet aux communautés de se retrouver dans des endroits, dans des espaces physiques. Et ensuite, toutes ces entités, toutes ces composantes y ont accès, peuvent devenir membres de ces espaces. Nous avons les données à Google l'an dernier, donc 2015. Il y a 70 000 membres Google sur nos campus. Pour vous donner un chiffre, nous avons aidé les start-up. Nous avons réussi à collecter 250 millions de dollars grâce à ces initiatives. L'idée, c'est de connecter les start-up au niveau local et mondial. Nous avons donc tout un ensemble de programmes avec le Dogpatch Labs. C'est quelque chose que... nous réalisons de façon courante. Il y a les problèmes aussi d'éducation, de formation pour les startups qui démarrent, vraiment pour les aider à comprendre comment croître. Et puis, il y a des programmes au niveau local qui permettent d'agir au niveau transfrontalier. Nous essayons de prendre des start-up, de les aider aux États-Unis, d'avoir des programmes d'immersion pour qu'ils aient accès à l'éducation, qu'ils comprennent bien comment les autres communautés fonctionnent et se développent, et pour les aider à réussir. Nous avons des années d'expérience et nous pensons qu'il y a 5 composantes majeures pour avoir des écosystèmes sains qui peuvent travailler au niveau local, régional et mondial. Et il faut du talent, densité, culture, des capitaux et aussi un règlement. Au niveau diversité, savoir-faire, capacité technique, éducation, nous avons des programmes à Londres, par exemple, qui permettent aux jeunes mères qui reprennent le travail d'en apprendre plus sur l'innovation, ou pour les gens qui ont plus de 50 ans, qui veulent fonder une entreprise. Voilà le genre d'engagement que nous avons. La semaine dernière, à Dublin, nous avons lancé une initiative avec le gouvernement qui s'appelle Think Tech, l'entrepreneuriat social. Il y a un fonds de 1 million d'euros pour les entrepreneurs sociaux. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs sociaux de qualité qui nous rejoignent, comme ceux qui essayent de réduire le gaspillage alimentaire, avec la distribution de nourriture jetée par les supermarchés à ceux qui en ont besoin au niveau éducationnel. Par exemple, ils sponsorisent des espaces pour les jeunes dans le monde qui veulent apprendre à encoder. Et ça se fait aussi dans Dogpatch Lab. La densité, pour moi, c'est la dynamique, c'est l'élan. Et ça se concentre surtout sur des communautés qui se retrouvent. Les multinationales. On essaye d'avoir une approche centrée sur la communauté et ça permet d'augmenter les chances de succès. On va avoir accès aux programmes régionaux, mondiaux, ça aide, ça fait la différence. Et nous pensons que nous jouons un rôle essentiel. Ça permet de mieux utiliser l'espace. Nous avons de plus de membres de notre communauté. Les start-up peuvent nous rejoindre un peu partout dans le pays et travailler. Ils ont accès pendant plusieurs jours à un réseau international. Ils peuvent utiliser des espaces de co-travail un peu partout. D'un point de vue culturel, il faut encourager cet écosystème. Notre engagement là est absolument majeur. Voilà, personne n'aime l'échec. Parfois, on dit, bon, ce que j'ai essayé ne fonctionne pas, je vais essayer autre chose. C'est essentiel. Il faut alors échouer rapidement et rebondir, retomber sur ses pieds. Dans la culture européenne, nous n'aimons pas beaucoup l'échec. Mais c'est quelque chose qu'il faut peut-être encourager pour que les start-up réussissent. Le financement, c'est aussi quelque chose qui a été évoqué, public et privé, il faut les deux. On l'a vu, ça a beaucoup aidé notre écosystème irlandais. Ça a permis notre système de se développer très rapidement. Maintenant, le succès engendre le succès. Ce qui est essentiel pour ces écosystèmes de start-up, c'est de permettre ce financement à se créer. Après, il y a une sorte d'autofinancement qui arrive. Peu à peu, l'écosystème devient viable au fur et à mesure que d'autres membres le rejoignent. Ensuite, il faut une bonne réglementation. Le marché unique du numérique, on en a parlé ce matin. C'est essentiel d'une perspective dans une perspective européenne. On le voit, nous travaillons avec des entreprises, avec des campus, et nous voyons un peu partout que les start-up, beaucoup se tournent vers les États-Unis pour le financement, pour un accès facile au marché. Donc il faut que ce marché unique du numérique devienne une réalité. C'est essentiel. Pour l'instant, ce n'est pas une réalité. Moi, je le dis qu'en tant qu'Européen qui travaille dans l'écosystème start-up depuis des années. Il faut motiver, financer. Au Royaume-Uni, il y a certaines mesures incitatives très bonnes. Par exemple, si on investit jusqu'à 200 000 dans une start-up, on peut déduire 50% des impôts. C'est un outil très intéressant pour l'investissement, pour que les start-up aient accès à des financements privés. Il y a des programmes pour les entreprises qui financent jusqu'à 250 000 euros. Alors qu'on a un financement privé et public, les deux se complètent à un même niveau. Donc de plus en plus, cela est essentiel. Pour résumer, merci de m'avoir écouté. Je serai ravi de pouvoir évoquer avec vous les exemples que j'ai connus au cours des années. Il y a beaucoup de programmes que nous essayons de mettre en place pour aider les startups. Je pourrais vous donner des exemples de ce que nous faisons.
Thank you.
Merci beaucoup à vous cinq pour vos présentations. Effectivement, je vais reprendre votre phrase. Le succès engendre le succès, mais nous, le rôle des élus, des politiques, nous devons vous aider à amorcer la pompe de ces réussites. Et lorsque vous soulignez à juste titre qu'en Europe, on n'aime pas les échecs, mais l'échec est parfois aussi et souvent le chemin vers le succès. Donc il faut aussi qu'on l'intègre dans nos réflexions, et notamment comment vous aider à avoir des financements, à vous soulager des tracas administratifs et économiques. Je pense que c'est dans l'intérêt de tous. Sans plus attendre, moi j'ouvre le débat. Donc si vous avez des questions, des interventions, des questions à poser à nos collègues ici présents. Oui.
Thank you very much. My name is Leonard Koschwitz.
Leonard Koschwitz, j'ai une start-up qui est un groupe de plaidoyer pour les start-up en Europe et qui est à but non lucratif. Je voudrais poser la question aux orateurs, une question sur le talent. Le talent, c'est une question dont on a souvent parlé comme une partie intégrante des écosystèmes. Nous savons qu'aux États-Unis, toutes les secondes, un créateur de start-up n'est pas américain. Et nous savons que la diversité des équipes a toujours plus de succès que lorsqu'il n'y a pas de diversité. Nous savons que d'ici 2020, l'Union européenne aura une lacune de talent en matière. Il y aura une pénurie de personnes talentueuses. Donc il est important de relier les choses. Je veux simplement, dans ces espaces de rencontre, ces moyeux, les campus universitaires dont vous avez parlé, etc., est-ce que vous avez également des étudiants, des entrepreneurs qui ne viennent pas de l'Union européenne? Quelle est la part des Européens, des non-Européens? Est-ce que vous avez cette diversité? Est-ce que les gens qui ne sont pas européens ont eu la possibilité facilement de se rendre en Europe? Quels sont les instruments de politique qu'ils ont à leur disposition pour faire des affaires en Europe ou créer des start-up? Voilà la question que j'ai.
I can take a version.
Bon, je peux essayer de répondre. Oui, il y a de bons exemples. Dans les espaces de rencontres, au niveau de Google, il y a pas mal de gens qui viennent de l'extérieur, par exemple de l'Est de l'Europe, mais également d'Amérique latine. Alors il y a des gens de pays non membres. Il y a un certain nombre de programmes qui sont là pour aider justement les start-up, essayer d'attirer des entrepreneurs d'outre-mer pour essayer de créer des petites entreprises. Alors dans le contexte européen, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir des points de rencontres et de rebondissements pour aller vers d'autres centres, Londres, etc., qui seraient des points de départ pour ces start-up. Alors les visas, vous en avez parlé, les visas doivent être facilités également. Il y a des visas de partenaires, de sponsors pour que les gens viennent. Il faut travailler à ce niveau-là. Ça a été un problème dans certains pays, effectivement. Ça peut marcher. Il faut que les époux puissent venir plus facilement et travailler également. Donc il y a des problèmes fondamentaux, simples, pour attirer les talents. Et il faut également offrir des possibilités d'éducation pour les enfants, pour que les familles viennent. Il y a toute une série de mesures au niveau des infrastructures à offrir à ces jeunes entrepreneurs. S'ils ont de bonnes idées, il faut leur ouvrir les portes. Et je crois qu'au niveau local, il faut dégager les talents également. Dans les écoles, au niveau technique, il faut véritablement assurer l'avenir. Et c'est quelque chose qui est une tâche de longue haleine, qui va très loin. En ce qui concerne les jeunes talents au Royaume-Uni, il y a effectivement un déplacement par rapport aux universités. Ils viennent d'ailleurs maintenant. Vous avez par exemple des apprentis qui révèlent des talents. Et vous avez par exemple des gens qui sont 4 jours par semaine en entreprise et qui 2 jours par semaine sont à l'université, qui mélangent les deux choses à un certain nombre d'entreprises qui offrent des apprentissages payés en Europe. Vous avez par exemple Playground Squad, qui est une entreprise de développement des PlayStation, qui a son siège en Suède et qui a environ 30 apprentis payés. Donc bien rémunérés même pour le départ, et en même temps ils apprennent un métier. Donc ça, c'est quelque chose qui fait son chemin, qui est promu de plus en plus, surtout par des financements privés, pour dire la vérité, au Royaume-Uni, pas les financements publics, mais il y a un besoin de développer cela, hein. Ça c'est sûr. Chez nous en Allemagne, le rôle des migrants joue un rôle important. C'est quelque chose d'important au niveau de la création d'entreprises. Dans notre Science Park, on a une des entreprises qui a le plus de succès, qui croît à vitesse grand V et qui augmente son capital. C'est une équipe multinationale, c'est une équipe diversifiée qui se sont rencontrées pendant leurs études. Il y a 3 Allemands, il y a un Indien. C'est tout à fait intéressant. Et l'une des entreprises a été créée par 2 réfugiés afghans qui ont montré aux Allemands finalement ce qu'ils savaient faire, hein, et qui ont apporté des idées nouvelles, hein, pour les Allemands. Ils ont montré aux Allemands comment est-ce qu'on peut vivre dans le monde du commerce. Et je dois dire qu'ils avaient beaucoup à nous apprendre. Et il y a 1/3 de créations au Science Park qui sont des migrants. Et ce qui est intéressant pour nous actuellement, surtout en ce qui concerne la question des financements en Allemagne, le financement, c'est quelque chose qui a un certain nombre de problèmes, évidemment, qui ne fonctionne pas de la même façon qu'ailleurs. Beaucoup des créateurs sont financés par les Chinois, hein, parfois. Et d'un autre côté, à Kassel, vous avez un bon exemple. Un créateur de Kassel avec son entreprise a déplacé son siège d'entreprise à Silicon Valley parce qu'il n'avait plus la possibilité d'obtenir du capital à Kassel. Il est allé à Silicon Valley, on lui a donné du capital. Donc là, il y a quand même un travail à faire au niveau des autorités allemandes.
Hi, thank you.
Oui, merci. Je voudrais faire 2 commentaires. Tout d'abord, on ne peut pas enseigner l'entreprise, l'esprit d'entreprise. Beaucoup d'universités disent qu'elles le font, ça s'en efforce, mais moi, sincèrement, je pense que ça ne s'enseigne pas, l'entrepreneuriat. On peut faire, après on peut échouer encore et encore, et peut-être qu'après 3 ou 4 échecs, vous connaîtrez le succès. Mais le rôle que doit jouer le secteur privé, c'est de faciliter l'échec, le rendre peu coûteux et acceptable socialement. Et je dois souligner une différence entre l'écosystème dans lequel j'ai grandi, qui est Israël, et l'écosystème européen, que je découvre maintenant, c'est que on fête l'échec en Israël. Ne pas suivre les règles, essayer de le faire à sa façon, se tromper, s'entendre dire qu'on s'est trompé, échouer, puis réessayer. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de start-ups. 99% des start-ups échouent. Alors il faut l'accepter. Se l'approprier, investir son énergie, pas dans le 1% qui réussissent, puisqu'ils vont réussir, mais dans le 99% qui ont échoué, pour qu'ils soient vite sur pied à nouveau, parce qu'ils vont réussir la fois prochaine ou celle d'après. Et puis, je vais conclure avec une réflexion. Envoyez vos jeunes dans d'autres pays, en Europe, pour qu'ils voient quels sont leurs problèmes, parce qu'après, ils reviendront, et ils verront les problèmes avec un œil nouveau. Ils pourront les résoudre, contrairement aux gens qui vivent dans ce problème, qui ont une sorte de vision tunnel, qui ne voient que le problème et qui n'arrivent pas à le résoudre. Là, vous êtes dans une position unique. Vous pouvez envoyer des jeunes un peu partout en Europe pour découvrir d'autres cultures, d'autres problèmes, et essayer de résoudre les problèmes. Quelqu'un d'autre voulait poser une question? Teresa? Quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Oui, voilà. Et Catherine aussi. Bien, pour les rassembler, parce que il nous reste un peu, encore à peu près 20 minutes. Oui. Toutes mes excuses. Nous votons à 12h dans une autre réunion où je devrais aller. Mais je voulais être présente. Parce que j'ai eu le privilège de visiter le projet Shadok à plusieurs reprises. Moi, je suis député pour le nord-ouest de l'Angleterre. Nous sommes tous ensemble dans le nord-ouest, sur tous les plans. Moi, ce que je voulais dire, Joseph, c'est que les industries numériques et créatives sont très importantes pour l'économie de ma région. Et elles sont importantes aussi pour l'écologie de l'économie de ma région. Et je vous écoute, c'est un peu doux amer en tant que Britannique d'entendre cela. Oui, bien sûr, il faut permettre aux jeunes d'aller d'un pays à l'autre. C'est très important. Et en partie, le problème dans notre région, c'était une aide non adaptée à la croissance des PME. Il ne faut pas une aide traditionnelle aux entreprises. Est-ce qu'il faut, c'est des réseaux, c'est avoir le droit d'échouer. Ce qui est en jeu, c'est aussi l'innovation, réunir le savoir-faire dans ces écosystèmes. Et il nous faut de nouveaux modèles, je crois, avec d'autres types d'apprentissage, plus concentrés sur l'industrie, plutôt que 3 ans à diplôme et puis un peu de temps pour aller travailler dans l'industrie. Ce qu'il nous faut faire, absolument, ce à quoi nous travaillons, c'est promouvoir les PME dans nos travaux et puis s'assurer aussi que l'accès aux finances est souple, adapté, plus facile. Et une de mes préoccupations, et ça c'est quelque chose que je dirai demain à Liverpool où nous avons aussi une réunion avec les autorités locales du Grand Manchester, c'est que nous avons besoin de canaux de financement. Vous disiez qu'il y a une grande partie qui vient du privé, c'est très encourageant, mais les canaux de financement publics du Royaume-Uni sont souples, fonctionnent bien, comprennent bien le droit à l'échec, comprennent des choses comme les réseaux, les terminaux et les différentes façons de travailler. Il ne faut pas revenir au mode traditionnel, mais apprendre. Et ce qui est essentiel, c'est d'entendre la voix des gens qui réalisent vraiment ce travail, qui conçoivent vraiment ces canaux de financement, qui conçoivent les politiques publiques. Ce n'est pas à nous de le faire, mais c'est aux gens qui travaillent vraiment de prendre ces décisions.
Yes. Bonjour, Rémi Perla.
Une petite réponse rapide avant. Ouais, un commentaire sur ce qui vient d'être dit par Teresa. Il y a un domaine qui me semble très intéressant, c'est le financement Horizon 2020. C'est là qu'il y a ce droit à l'échec. La première phase, le financement de 50 000 euros pour faire des études de faisabilité. Là, ça vous donne ce droit à l'échec avant de passer à la deuxième phase. C'est-à-dire, une fois que vous avez prouvé qu'il y a un besoin, vous avez accès à un financement supplémentaire. C'est ce genre d'initiative qui m'intéresse en tant que PME. Pouvoir faire une première tentative, au lieu de tout devoir présenter à la fois, on a une première chance, on peut tâter le terrain en fait.
Donc, bonjour, Rémi Perla, je suis président d'une start-up sur Strasbourg qui s'appelle Créalettre, qui fait des histoires par correspondance postale dont les enfants sont des héros pour faire lire et écrire les enfants. Et alors, pour rebondir juste sur ce qui vient d'être dit, j'ai un peu du mal. Donc déjà, en tout cas, je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'entrepreneuriat, ça ne s'apprend pas. Il faut vraiment pouvoir l'expérimenter. Il faut faire attention quand on parle de faire des études de faisabilité, ce genre de choses. L'étude de faisabilité, c'est d'essayer de faire son produit, d'aller sur le marché. C'est pas d'aller payer des intervenants extérieurs qui vont venir faire des études, aller faire des sondages, ce genre de choses. Il faut construire, il faut se louper, il faut se relever, il faut réessayer, il faut se relouper jusqu'à trouver son produit market fit. Et donc voilà, ça c'est... Après, j'avais deux questions pour rebondir sur différentes choses qui ont été dites. La première chose, c'était le rapport entre les grandes entreprises et les start-up. C'est quelque chose qu'on essaye beaucoup de stimuler, notamment en France. Sauf qu'on a souvent, on critique aussi le fait que les start-up vont vers une finalité qui est de se faire racheter à la fin par une grande entreprise. Est-ce que Facebook serait devenu Facebook s'il avait été racheté au début de son développement? Est-ce que Google serait devenu Google s'il avait été racheté au début de son développement? Donc voilà, c'est peut-être un manque d'ambition assez fort. Deuxièmement, le temps des grandes entreprises et le temps des startups n'est pas du tout le même et c'est très très mortifère pour les startups. Quand une entreprise dit « on va faire un truc avec vous », la start-up se dit « super, dans un mois, dans deux mois, dans six mois, c'est fait ». L'entreprise se dit « dans deux ans, c'est fait, le temps de mettre tout en place ». Et dans deux ans, la start-up a fait plus du tout la même chose, elle n'a plus du tout le même marché, elle n'a plus du tout le même public, elle a pivoté trois fois. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème. Et ma deuxième question était sur la question qui a été posée, pourquoi les start-up vont chercher les financements aux États-Unis ? Je suis en train de le confronter, je suis en cours de levée de fonds en France et je suis en train d'aller vers l'étranger parce que en France, on va dire qu'on a une plus grosse peur du risque et les investisseurs demandent à savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réalisé, où on en est, alors que les Américains ou les Anglo-Saxons vont demander quelle est votre vision, où est-ce que vous voulez aller, comment est-ce que vous allez conquérir le monde. C'est pas du tout la même chose et en France on dit toujours non mais soyez raisonnable, vous n'allez pas vraiment faire ça dans six mois. Alors que à l'étranger on nous dit non mais vous voulez faire que ça, ça nous intéresse pas. Nous si vous voulez pas conquérir le monde ça sert à rien, vous êtes pas une start-up. Voilà, c'est une question de différence de culture. Merci.
I will collect now the interventions.
Nous allons rassembler les interventions. Catherine? Merci beaucoup. Merci de vos interventions. Nous avons tous d'autres réunions, mais c'était très intéressant d'entendre vos différents exemples. Bon, vous avez raison. Tout d'abord, on ne peut pas renseigner l'entrepreneuriat. Ça vient d'ailleurs. Mais nous pouvons agir du côté des qualifications à donner aux jeunes, pas aux universités, mais aussi à l'école. Il faut différents programmes pour acquérir cela. Ensuite, ce qui m'intéresse à Cassel, c'est que vous avez aussi les écoles qui sont reliées à votre campus. Ce n'est pas simplement l'éducation supérieure, mais c'est aussi la question de voir comment on peut utiliser cette éducation, cet enseignement, pour réunir les idées. Comment peut-on réunir des gens qui ont des idées pour qu'ils aillent plus loin? Et vous avez tout à fait raison à propos de l'échec. Il y a un problème culturel qu'il faut régler. Comment aider les gens, les aider à se relever et à recommencer? Comment y arriver? Comment réaliser ce changement culturel? Ça, c'est important. Et puis, Sean, vous avez parlé aussi à Teresa de votre projet. Vous dites que cela n'a pas toujours été attaché à l'université ou à l'enseignement supérieur. Ça, c'est intéressant. Vous avez donné un exemple de la façon dont les gens sont aidés par l'apprentissage. C'est essentiel, mais la question, c'est comment acquérir ces connaissances numériques à l'école lorsque les gens sont au primaire, au secondaire ou avant. Comment leur donner ce genre d'idées? Parce que si à l'avenir, 90% des emplois nécessitent un savoir-faire numérique d'une façon ou d'une autre, Comment faire en sorte que, bon, par exemple, c'est déprimant parfois, il y a des gens qui ne savent pas combien il est important d'avoir un savoir-faire, des connaissances, des qualifications numériques pour les enfants, maintenant, pour l'avenir. Et il faut vraiment arriver à mettre cela en route. Oui. Moi, vous savez, d'après mon accent, je suis écossaise. On a voté pour rester dans l'Union européenne, mais aujourd'hui, j'ai utilisé l'hashtag optimisme numérique parce que je pense que vraiment, on peut y travailler. Et soyons optimistes pour l'avenir et essayons, si possible, de donner aux jeunes les qualifications dont ils ont besoin. Voilà, vous m'avez rendu optimiste alors que, franchement, ce n'est pas très optimiste et dans la délégation britannique à l'heure actuelle.
In the question on the...
Martina, je crois. Et puis nous devrons conclure. Avec micro, s'il vous plaît. Oui, un commentaire rapide sur ce qui vient d'être dit. Vous demandez comment enseigner le numérique. Comment appliquer les gens et leur donner les qualifications nécessaires. Il y a une solution très simple. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Apprenez à encoder dès la maternelle. Le langage le plus parlé dans le monde, c'est Java, c'est pas l'anglais, c'est pas le chinois, c'est le Java 1.0. Si chacun sait programmer, alors ils ne doivent pas être des programmeurs, des experts. Je dis pas que tout le monde doit être programmeur, mais chacun doit avoir un savoir-faire de base, une compréhension du monde dans lequel nous vivons à l'heure actuelle.
Ja, danke schön. Also klar, das zeigt ja also erstmal herzlichen Dank an die.
Alors, merci beaucoup pour toutes ces interventions qui sont extrêmement intéressantes. À chaque fois, moi, je suis fasciné quand j'entends parler de start-up, de ce qu'ils font. Je trouve ça absolument extraordinaire. Le nombre d'idées et la façon dont elles sont mises en œuvre. Et je crois que la numérisation de la société, la numérisation de l'industrie, l'industrie 4.0, tout cela, évidemment, on a besoin de dynamique du côté des jeunes qui puissent véritablement mettre tout cela en œuvre. Et si je regarde où on en est, on a déjà une pénurie importante de spécialistes en République fédérale d'Allemagne, évidemment, mais je crois un peu partout. Il y a beaucoup de compétences qui manquent. Donc, aux États-Unis, Silicon Valley, moi j'ai eu l'occasion de parler à des Allemands qui sont allés s'y installer. Il y en a un qui m'a dit qu'il voulait de toute façon être entrepreneur depuis son enfance, il ne voulait jamais travailler pour d'autres, etc. Ça, je le comprends. C'est souvent comme ça en Allemagne, des jeunes à l'université recherchent un bon emploi dans une grande entreprise, etc., parce que ça leur donne le sentiment de sécurité. On se dit, si je vais travailler pour Mercedes ou BMW, j'aurai un bon travail, j'aurai un bon salaire, j'aurai une bonne retraite. En fait, il faut un nouveau souffle. Il faut que les gens acquièrent une nouvelle mentalité pour être jeune entrepreneur. Il faut oser créer quelque chose. Et il est important d'ailleurs de savoir qu'on peut échouer, mais rebondir. Ça, c'est important. Je crois que c'est vous qui avez dit qu'il faut savoir reconnaître un échec qui arrive et savoir pivoter, savoir commencer quelque chose de nouveau. Je crois que c'est quelque chose que les jeunes n'ont pas suffisamment dans la tête. Bon, quelqu'un qui a fait un dépôt de bilan, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ce n'est pas la même chose que de changer d'idée ou de rebondir sur les problèmes. Si on a la possibilité véritablement de commencer quelque chose de nouveau, d'essayer quelque chose de nouveau, on le fera peut-être. Donc on n'a pas suffisamment de ressources humaines, il n'y a pas suffisamment de jeunes venant de l'extérieur de l'Allemagne, venant de l'Europe, qui aient appris d'ailleurs à l'école un peu les éléments de base pour être entrepreneur. Il nous faut des gens peut-être qui viennent d'Amérique, d'Israël, qui viennent créer leur start-up ici. Et il faut être prêt à offrir cela. Bon, on a évidemment un certain nombre de choses à offrir en Europe. On a un bon système social, par exemple, dont on peut être fier. Et les jeunes qui ont des familles, qui ont des enfants, ils ont toute une série de possibilités de s'installer ici. Il faut le rendre encore plus attrayant, cela. Et puis les possibilités de financement, il faut travailler encore sur cela. C'est sûr, nos jeunes, il faut qu'on les active, mais il faut également qu'on ouvre les portes à d'autres, à des jeunes venant d'ailleurs, venant d'autres horizons, d'autres états, d'autres parties du monde.
Martina.
Merci Martina. Nous avons 2 minutes chacun pour conclure. Peut-être que vous allez commencer. Oui. Bon, quelques remarques sur les derniers éléments de notre discussion. La question de l'esprit d'entreprise, il faut commencer très tôt, c'est vrai, à l'école, à l'insuffler dès le jardin d'enfants. Dans les jardins d'enfants, dans les écoles, il faut au moins peut-être apporter un peu plus de compréhension pour les maths, les sciences naturelles, etc. C'est vrai, mais pour toute une série d'autres choses. Il y a des initiatives, d'ailleurs, qui commencent à se mettre en place dans les jardins d'enfants, allant dans le bon sens. Et j'espère que ça portera des fruits. Alors, pour répondre concrètement à votre remarque en ce qui concerne la culture de l'échec, savoir accepter l'échec. Malheureusement, en Allemagne, on ne sait pas. On ne sait pas échouer. Quand quelqu'un a échoué en Allemagne, il est foutu. Hein, et on dit toujours chat échaudé, craint l'eau froide, etc. C'est fini, terminé. Il faut effectivement changer les mentalités à ce niveau-là. Le fait d'être entrepreneur, ça veut dire justement savoir rebondir. Il faut changer les choses. En Allemagne, là, je dois dire qu'on a beaucoup de travail à faire sur cela. Sans cela, évidemment, on a cette dynamique qui va être interrompue par un échec. Et ce sera terminé. Donc il faut véritablement savoir recommencer et apprendre de son erreur. Il faut savoir comprendre pourquoi on a échoué.
Et ça, effectivement, si on arrive à ouvrir les portes à des gens qui ont fait plusieurs fois des échecs et qui viennent et qui ont des chances de financement, ça marchera. Le problème en Allemagne, c'est quelqu'un qui a échoué, les banques leur ferment les portes. On dit, ah non, non, on ne va plus leur donner d'argent, c'est fini. Donc il faut qu'on travaille sur ces possibilités de financement. Les banques allemandes n'ont pas cette mentalité du risque, ils ne savent pas prendre du risque, les banquiers chez nous. Ça, j'ai rajouté, mais c'est vrai.
Oui, j'ai pris des notes rapides en écoutant tout le monde. Je voudrais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure avec ces cinq grands éléments, mais tout a été bien évoqué. On a parlé de la diversité, quand on a évoqué la question des talents, il y a des immigrants qui arrivent, l'équilibre homme-femme. On a plus de chances de succès pour les startups avec plus de talents. On a parlé aussi de l'enseignement, de l'apprentissage précoce. La densité des écosystèmes, ça c'est l'effet communauté. Toutes les composantes de la communauté travaillent ensemble en tant que communauté pour développer l'innovation et pour aider les start-up à réussir. On a beaucoup parlé de l'échec dans une perspective culturelle. Il faut changer, c'est essentiel, cette culture pour aider les start-up à savoir... c'est comme au poker, il faut savoir quand perdre. Et c'est ce qu'il nous faut aussi pour les start-up. Aux États-Unis, on parle beaucoup de pivot, c'est-à-dire on se tourne vers l'avenir, comment on transforme un échec en succès en se tournant vers l'avenir. Le financement, on en a parlé. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est que 2% des start-up reçoivent du financement pour les venture capital, pour les entreprises à risque, alors que c'est beaucoup plus important aux États-Unis. Ensuite, il faut créer des politiques pour simplifier la création d'entreprises en Europe. C'est toujours très complexe. La question est de savoir comment simplifier. Il faut aider les gens à trouver un emploi, à mettre en place des infrastructures. Il faut leur donner des incitations aussi financières pour les aider à réussir. Les innovateurs, bien sûr, se tournent vers une perspective mondiale dans des pays comme l'Irlande, dans des petits espaces de co-travail. Il faut tout de suite réfléchir au-delà de ces frontières. Il ne peut pas être possible de se concentrer sur un marché uniquement local. C'est la recette de l'échec. L'entrepreneuriat, c'est mondial par nature et c'est le changement culturel qu'il faut réaliser en Europe. Oui, merci. J'admire tout à fait cette philosophie de l'échec que vous avez citée, Yaron, parce que au Royaume-Uni, on a toujours une philosophie négative. On survit ou on disparaît. Au Royaume-Uni, il n'y a aucun filet de sécurité. Et je crois qu'il y a encore des choses qui n'ont pas changé. Ça dépend beaucoup. Des rencontres qu'on fait. Oui, puis il y a des choses comme le Brexit qui se produisent. Et il y a beaucoup de sociétés, d'entreprises qui disparaissent. Au Royaume-Uni, c'est très dommage. La génération suivante, ma fille de 13 ans est facilitée par le monde des affaires. Elle veut créer une entreprise. Parfois, elle me dit ce qu'il faut faire. Elle regarde des programmes comme Dragon's Den au Royaume-Uni, mais elle croit que c'est vrai. Paddy a déjà parlé d'autres initiatives. Il y a des initiatives fantastiques. Mais le problème, c'est que ça c'est fait par des volontaires. C'est des gens qui doivent y consacrer leur temps. Nous avons des journées de visite d'école. Les écoles viennent et voient les photographes, des légistes, des développeurs. Et pour eux, ça leur donne d'autres possibilités. Ça leur donne l'envie. Et le International Hacker Fund, moi c'est fascinant, je trouve. C'est quelque chose de très puissant. Personnellement, je ne suis pas un grand fan des réseaux. Je préfère l'idée de la concurrence. Une concurrence où il y a peut-être quelque part un besoin social, quelque chose qui tournerait autour des handicaps. Et l'idée, il y a un financement qui permet aux entreprises de travailler ensemble et il faut y insuffler une dimension concurrence. Il y a quelque chose qui s'appelle FabLab, qui est un modèle très intéressant. Et et ils ont une très bonne infrastructure. De communication, et pour eux, il n'y a pas vraiment de limite ou de frontière parce qu'ils mettent en place une sorte de réseau qui permet de surmonter ces problèmes. Et il y a un domaine dont nous n'avons pas parlé. Voilà, on parle de bureaucratie, de paperasse pour moi. Et le problème, c'est le domaine de la propriété intellectuelle. C'est un vrai champ de mine pour une PME. Bon, ça me coûte une fortune pour protéger mon adresse IP. Et il faut absolument lever ces obstacles si nous voulons que ça fonctionne, d'après moi.
Donc moi, je conclurai peut-être pour rappeler dans le cas de Strasbourg, c'est qu'effectivement, à Strasbourg, on a une effectivement des plus grandes entreprises de France. On a des écoles d'ingénieurs qui sont extrêmement reconnues, mais effectivement, ce qui nous manquait, et en cela, je salue le travail d'acteurs, effectivement, comme la French Tech, comme l'association Alsace Digital, qui est en charge de notre espace de coworking, c'est d'avoir impulsé ce travail d'accompagnement à la fois humain, matériel et financier justement pour ces jeunes start-up qui émergent sur le territoire. On sent vraiment sur le territoire de Strasbourg une espèce d'énergie créative, une volonté d'entreprendre. Aujourd'hui, les jeunes, en tout cas en France, ont très envie de se lancer, d'entreprendre des choses, mais l'entrepreneuriat aujourd'hui effraie assez. Et en cela, je salue le travail de ces acteurs-là, donc comme je disais, comme la French Tech ou Alsace Digital, qui ont souhaité développer un environnement propice pour un écosystème d'entreprises de type start-up, ce qui nous manquait vraiment aujourd'hui sur le territoire. Par rapport à la French Tech, c'est vrai qu'il s'agissait de permettre à des entreprises, tout comme l'espace de coworking au Shadok, d'avoir un lieu pour permettre aux startups de se croiser, aux acteurs économiques de se rencontrer, de permettre l'émergence de projets et d'idées. L'idée aussi d'avoir accès à des formations, même si effectivement l'innovation et l'entrepreneuriat ne s'apprend pas forcément, mais c'est l'idée d'avoir cet accompagnement au moins humain, matériel et financier qui paraît précieux aujourd'hui, la rencontre et le partage aussi de ces différents acteurs qui est précieux. Et finalement, je conclurai aussi par dire qu'effectivement, la devise des Shadok, une devise auquel effectivement on doit aussi notre origine, qui est effectivement d'essayer de créer, d'entreprendre, même si on se rate, puisqu'effectivement les Shadok étaient à la base des petits oiseaux qui sont issus d'un dessin animé des années 70, qui créaient énormément, qui se rataient aussi la plupart du temps, mais qui continuaient d'essayer de créer et d'entreprendre, et c'est vraiment aussi l'ambition et l'objectif du lieu que de supporter l'énergie créative et innovatrice du territoire, notamment à travers l'appui et le gros travail que fait Alsace Digital, la French Tech, autant d'acteurs économiques qui sont précieux en tout cas pour les jeunes start-up et les entreprises sur le territoire aujourd'hui. Merci.
Bon, je sais que vous devez tous partir, donc j'ai trois points à soulever très rapidement. Tout d'abord, les échecs et les start-up. Imaginez un entrepreneur qui va échouer, qui va faire une nouvelle start-up. C'est comme quelqu'un qui échoue sa licence et qui va faire une maîtrise sur un autre sujet, dans une autre discipline. Et puis, on acquiert de l'expérience. Et ça, c'est des gens qui apportent beaucoup à l'économie. Et puis, évidemment, la paperasserie. Là, il faut utiliser le test de la grand-mère. Si votre grand-mère ne comprend pas, ça veut dire que c'est trop compliqué, ça ne sert à rien. Dans une start-up, on dit « keep it simple ». Hein, faut que ce soit simple. Ça, c'est une chose importante. Et puis, finalement, ne regardez pas les États-Unis. N'allez pas chercher du capital risque aux États-Unis, etc. Cherchez chez vous quelle est la possibilité des propositions de vente que vous avez, parce que c'est à partir de votre région que vous allez pouvoir rayonner internationalement, mais il faut le faire avec un retour dans votre pays. Merci. Merci Yaron pour ces mots qui nous inspirent et qui inspirent l'Europe. Merci d'être venu ici. Je crois qu'on aurait besoin de beaucoup plus de temps pour continuer à discuter, mais c'est impossible pour l'instant. Je crois qu'il faut qu'on arrive à mieux coopérer au-delà des frontières. On sait qu'en Europe, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rencontrés les uns les autres. Je pense que ça ne se faisait pas, mais justement, si vous pouvez vous rencontrer dans ce type de réunion, c'est important. Le financement est ressorti comme quelque chose sur quoi nous devons beaucoup travailler dans nos familles politiques. Il est important également d'agir pour changer les mentalités, les comportements, les risques, hein, la mentalité du risque. Il faut qu'on y arrive finalement. Et je crois qu'en tant que politique, il faut qu'on délivre, comme on dit en anglais, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Si on n'a pas de résultat, nous ne pourrons pas poursuivre le projet européen. Donc dans les 3 années à venir de notre législature, je crois que nous aurons à continuer à avancer très rapidement. Il faudra faire quelque chose et obtenir des résultats. Vous avez mentionné la programmation, le coding. Il y a une réunion de la Commission au mois d'octobre sur cela. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est des efforts de la Commission européenne. Il faut être peut-être un peu plus actif, mais enfin, il est bon qu'on ait déjà commencé quelque chose. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas besoin d'aller voter, vous êtes invités à suivre Joe pour des sandwichs. Elle sait où sont les sandwichs, donc si vous la suivez, vous pourrez manger, continuer la discussion à bâton rompu entre vous. Et j'espère que nous nous retrouverons dans ce type d'environnement pour poursuivre nos discussions. Merci beaucoup.